Je vais présenter rapidement l'argumentaire du colloque. Alors, dans le prologue fin de siècle de son ouvrage Mémoire du mal, Tentation du bien, Enquête sur le siècle, Tsvetan Todorov énonce une idée assez intéressante selon laquelle l'enquête sur la mémoire d'un millénaire est un non-sens, tandis que celle sur la mémoire d'un siècle a toute sa légitimité. Je le cite, « Le siècle, en revanche, fait sens. C'est notre vie, plus celle de nos parents, tout au plus de nos grands-parents. Un siècle, c'est le temps accessible à la mémoire des individus. » Ivan Bounine, un très grand écrivain lauréat du prix Nobel de littérature en 1933, dans les années qui suivent la révolution d'octobre, évoque ce centenaire dans son journal intime Jour maudit. Je le cite. « 100 ans passeront, y aura-t-il seulement quelqu'un qui, alors près de sa tombe, du personnage de Nikolai Filipovitch, sente cette époque? Non, personne, jamais, la mienne non plus. Mais moi, je ne reposerai même pas parmi les miens. » L'année 2017 marque le centenaire de la révolution russe, un événement historique indéniablement d'importance mondiale, et il ne serait pas inintéressant de l'aborder 100 ans après, en passant par l'intersection de deux thèmes, celui de la mémoire et celui de l'exil. En étudiant les métamorphoses de la mémoire exilée se produisant dans le temps et dans l'espace, après l'instauration dans ce pays de la dictature de prolétariat à partir d'octobre 1917. Cet événement, connu dans la mémoire mondiale comme la révolution d'octobre, depuis la perestroïka apparaît plutôt dans la mémoire collective du peuple russe comme un coup d'État ou un putsch. La mémoire russe, en général, vue d'aujourd'hui, se présente comme une succession de multiples mémoires produites sur le sol national et en terre étrangère. Une mémoire de l'Empire russe avant 1917 et à côté d'elle, une mémoire minoritaire d'exilés politiques ou religieux en Europe occidentale à partir du XIXe siècle. Ensuite, entre 1917 et la chute de l'URSS, en décembre 1991, il existe deux mémoires parallèles, une mémoire officielle soviétique dans le pays et une mémoire émigrée, privée de peuple, interdite en URSS, mais à fort contenu intellectuel. Dans la Russie contemporaine, on réévalue la mémoire du pays, les mémoires tsaristes et émigrées, ainsi que la mémoire non officielle de ce qu'on appelle l'immigration intérieure, sont réintégrées dans l'héritage historique et culturel, elles sont mises en valeur, tandis que la mémoire produite par le régime soviétique est désormais vue d'un mauvais œil et pratiquement occultée. Une boutade russe dit que les Russes ont emprunté deux choses aux Français, le siècle des Lumières et la Révolution française. En effet, la naissante révolution russe fut tout de suite comparée par l'opinion européenne à la Révolution française, mais également servi de modèle à différentes révolutions socialistes du XXe siècle. La Russie impériale s'est sentie définitivement portée vers la Révolution tout au début du XXe siècle. La première révolution, inachevée de 1905, la révolution libérale de février qui ne dure que quelques mois, et enfin la révolution communiste dont le régime va s'imposer dans le pays pour plus de 70 ans. La révolution d'octobre 1917, suivie d'une guerre civile entre les Rouges et les Blancs, est accompagnée de terribles famines qui ravageaient le pays, scindait la société russe en deux parties, soviétique et émigrée. L'immigration russe fut massive et multiple. Un grand nombre d'intellectuels ont réussi à partir en exil, hommes politiques, hommes de lettres, philosophes, artistes, juristes, scientifiques, militaires, membres du clergé, etc. Le traumatisme de la révolution et du départ forcé a engendré une profuse littérature de mémoires, d'autobiographies, de témoignages, de romans et d'ouvrages historiques. Des archives et des chroniques de la révolution russe en multiples volumes sont édités en exil. Nous pouvons citer les archives de la Révolution russe en 22 volumes, édités par Youssef Guessen. Dans son ouvrage « La Révolution inconnue », 1917-1921, Vsevolod Volyn insiste sur le caractère subjectif de la mémoire en exil. La subjectivité propre au corps et à l'esprit humain peut contaminer le cours de la mémoire. Je vais donner une brève citation de Vsevolod tirée de cet ouvrage. Alors, Vsevolod Volyn dit « Dans le formidable tourbillon de la Révolution, une multitude de faits, engloutis par d'énormes crevasses qui s'ouvrent et se renferment à tout instant, restent introuvables, peut-être à jamais. Ceux qui vivent une révolution, ces millions d'hommes, qui d'une façon ou d'une autre sont emportés par l'ouragan, se soucient hélas fort peu de noter pour les générations futures ce qu'ils ont vu, su, pensé ou vécu. Selon que l'écrivain est en blanc, en démocrate, en socialiste, en stalinien ou en trotskiste, tout change d'aspect. La réalité elle-même est façonnée au gré du narrateur. Plus vous cherchez à la fixer, moins vous y arrivez. Car les auteurs ont chaque fois passé sous silence des faits de la plus haute importance si ceux-ci ne s'accordaient pas avec leurs idées, ne les intéressaient pas ou ne leur convenaient pas. Fin de citation. Les auteurs exilés font une fixation certaine sur la Révolution en essayant de rendre intelligible cet événement historique. Le pan politique est très représentatif de l'écriture mémorielle de la Révolution en exil. Nous pouvons citer Georges Lvov, Alexandre Kerensky, Pavel Miliukov, Vassili Maklakov, Léon Trotsky, etc. Des mémoires des militaires et rédigées par des militaires sont en nombre abondant. Je ne vais pas peut-être donner des exemples pour économiser le temps. Alors, les intellectuels exilés sur l'ordre de Lénine par le biais du paquebot des philosophes en 1922 forgent leur conception philosophique de la Révolution, Nicolas Berdiaïev, Léon Chestov, Fedor Stepoun, Ivan Iline, etc. Tous les écrivains et poètes émigrés qui ont vécu la Révolution la décrivent d'une manière ou d'une autre dans leurs textes littéraires. Nous pouvons citer Ivan Bounine, Zinaïde Gippius, Ivan Shmilov, Marc Aldanov, Averchenko, Yuri Anenkov, Michel Assorgin, Boris Zaïtsev, etc., etc. La mémoire en exil suppose une écriture plurilingue. L'écriture mémorielle se présente en plusieurs langues, en russe bien évidemment, mais aussi en différentes langues des pays d'adoption. Nous pouvons citer une très riche bibliographie des textes en traduction ou directement écrits en français dans l'ouvrage de Léonid Levac sur l'émigration russe. Dans les années 20 et 30, les éditions Payot publient en français nombre de mémoires d'hommes politiques, de militaires, de grands-ducs et de nobles émigrés russes. Par exemple, la Révolution russe, l'expérience Kerensky de Kerensky. À cela s'ajoutent des romans historiques, par exemple De l'aigle impérial, le drapeau rouge de Platon Krasnov, ou encore des enquêtes comme La chute du régime tsariste, interrogatoire des ministres, conseillers généraux, hauts fonctionnaires de la cour impériale russe par la commission extraordinaire du gouvernement provisoire de 1917, ou l'enquête judiciaire sur l'assassinat de la famille impériale russe avec les preuves, les interrogatoires et les dépositions des témoins et des accusés de Nicolas Sokolov. Mais il ne faut pas oublier que la mémoire de la Révolution russe se développe aisément en exil avant 1917. Nous pouvons citer des congrès du Parti ouvrier social-démocrate en Russie, toutes les réflexions qui ont été faites sur la future révolution et ses préparatifs. Lénine en personne vit et prépare de manière intense la future révolution russe en Europe occidentale de 1900 à 1917 à Zurich, Munich, Londres, Genève, Paris. L'étude de la problématique peut être plurielle. Quelles sont les fractures et les reconstructions mémorielles qui se présentent chez les exilés? Comment sont perçues d'éminentes figures révolutionnaires dans les écrits émigrés? Par exemple, Lénine, Staline, Maïkovski, Gorki. Quelle est la place de la révolution de février 1917 dans la mémoire mondiale? Comment la jeune génération immigrée aborde-t-elle le thème de la révolution? Comment les périodiques traitent-ils la question de la mémoire révolutionnaire au fil des années? Comment la mémoire de la révolution est-elle traitée chez les écrivains français ou étrangers originaires de l'Empire russe? Nous pouvons par exemple citer l'ouvrage Nicolas II d'Henri Troya ou Moisson d'octobre et la steppe rouge de Joseph Kessel. Certains moments, certaines époques du processus historique sont plus événementielles que d'autres et attirent irrémédiablement à eux le travail de l'imaginaire. Tel est l'événement historique des révolutions. Dans l'ouvrage Révolution, histoire d'un mot, Alain Ray explique ce phénomène du point de vue lexicographique. Il dit « Peu de mots ont assumé aussi continuellement des antinomies aussi graves. Destruction, reconstruction, mort, renaissance, avenir passé, espoir, désillusion, évolution inévitable, intervention brutale. autant d'opposition que le mot et ses usages dialectisent de manière désordonnée mais obstinée. Plus loin dans le texte, il dresse un parallèle entre révolution imaginée et accomplie. La révolution espoir se heurte à la révolution histoire. Dans le concept révolutionnaire, 1789 et 1917 sont de singulières racines. Ils fascinent et sur lesquels bute l'espoir. Et François Furet, dans « Penser la Révolution française », écrit la chose suivante sur l'imaginaire de la Révolution française. Je le cite, « À partir de 1917, la Révolution française n'est plus cette matrice de probabilité à partir de laquelle peut et doit s'élaborer une autre révolution définitivement libératrice. Elle n'est plus ce champ de possible, découvert et décrit par Jaurès. Elle est devenue la mère d'un événement réel et son fils a un nom, octobre 1917, et plus généralement la Révolution russe. » Ce qui est extrêmement intéressant dans ce cas de figure historique, c'est que pour ce centenaire, trois types d'imaginaires collectifs se confrontent, ce que Paul Ricoeur appelle la lutte pour un imaginaire contre un autre. Alors ces imaginaires se confrontent et se complètent dans le travail de la reconstruction scientifique et culturelle de l'événement historique majeur qu'est la Révolution russe. Imaginaire soviétique, imaginaire immigré et celui de la Russie contemporaine. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces imaginaires sont encore très forts et très présents dans la conscience collective. Ils sont nourris par les témoignages des descendants, de ceux qui ont connu l'événement, par les mémoires qui se transforment en se transmettant. Comme le dit Alain Rey dans « Révolution, histoire d'un mot », on va citer encore une fois cet ouvrage, le mot russe « révolution » est depuis longtemps embaumé comme Lénine et manié comme un fétiche. Nous savons très bien quelle importance l'idéologie soviétique accordée au jour de la commémoration de la Révolution d'octobre. Les festivités annuelles en URSS et différents pays le 7 novembre. Nous pouvons nous souvenir du film d'Einstein octobre et de toute la glorification de l'événement dans la culture russe, soviétique. Mais voici comment deux grands historiens spécialistes de la Révolution russe, Arnaud Mayer et Léonard Shapiro, décrivent ce jour du 25 octobre 1917 qui a branlé l'imaginaire du monde entier. Arnaud Mayer propose l'interprétation historique suivante, je le cite, « On se fera une idée de l'impuissance du gouvernement de Kerensky lorsqu'on saura qu'en cours de 10 jours qui ébranlèrent le monde, il n'y eut que quelques dizaines de victimes dans la capitale de la nouvelle grande révolution. À Moscou, en revanche, la résistance fut farouche. Toute une semaine durant, des officiers, des cadets de l'armée et des socialistes révolutionnaires de droite de tout poil défendirent le gouvernement provisoire. Il y eut plusieurs centaines de morts. Néanmoins, tout bien pesé, la prise du pouvoir bolchevique fut relativement peu sanglante par rapport en tout cas au soulèvement de février. » Et voici la reconstruction historique de Léonard Shapiro. Je le cite. « En définitive, la prise du pouvoir eut lieu pratiquement sans effusion de sang, contrairement à ce qui s'est passé en février. Jamais une ville n'eut moins l'air d'être en proie à la révolution que Petrograd le 25 octobre. Dans la soirée, les rues étaient pleines de gens bien habillés, les théâtres et les restaurants ouverts, et à l'opéra, Chalapine chantait Boris Godunov. Les principales gares et les services publics avaient été mis sous contrôle dans la matinée sans qu'un seul coup de feu fût tiré. » Fin de citation. En parlant des événements clés de l'histoire mondiale qui ont produit la décomposition de l'hégémonie du modèle européen au XXe siècle, Paul Ricoeur cite la Première Guerre mondiale et la Révolution d'octobre. Je le cite, « Nous avons vu se défaire au XXe siècle la prétention de l'Europe à totaliser l'histoire du monde. Nous assistons même à la décomposition des héritages qu'elle avait tenté d'intégrer sous une unique idée directrice. L'européocentrisme est mort avec le suicide politique de l'Europe au cours de la Première Guerre mondiale, avec le déchirement idéologique produit par la Révolution d'octobre. » Fin de citation. Pierre Nora répète également cette idée que la Révolution russe a influencé le cours de l'histoire mondiale au XXe siècle. Je le cite, « La France n'a subi depuis la guerre que le contre-coup des grands phénomènes venus d'ailleurs, la révolution de 1917, le fascisme, la crise économique et l'expansion des 30. » Pour terminer, je voudrais citer Georges Niva et son ouvrage « L'Icide de la mémoire russe ». Et alors, dans cet ouvrage « L'Icide de la mémoire russe », Georges Niva écrit « La mémoire est la vie, l'évolution permanente, l'histoire et la reconstruction toujours problématique. Les reconstructions mémorielles sont difficiles à plus d'un titre, si joint la différence et la distance temporelle qui séparent le réel du commémoré, le réel de l'imaginaire. » Pour terminer notre propos, nous voudrions reprendre encore une belle formule de Pierre Nora qui dit que la tyrannie de la mémoire n'aurait duré qu'un temps, mais c'était le nôtre. Merci de votre attention.